France Inter. Le 7-9.
Le débat éco, comme chaque vendredi, avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Le 11 décembre 2001, il y a quasiment 20 ans, la Chine adhérait à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, ouvrant ainsi son gigantesque marché au monde. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Elle pèse davantage que l'ensemble de la zone euro et son PIB par habitant en 20 ans a été multiplié par 10. Pour autant, son capitalisme reste un capitalisme d'État. Et la Chine ne s'est pas démocratisée. Beaucoup de choses à dire. Donc ce matin, première question, Dominique, avec le recul. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait favoriser l'entrée de la Chine dans l'OMC ou le faire autrement?
Il fallait le faire, il fallait probablement le faire un petit peu autrement, même si on oublie toujours qu'il y a eu beaucoup de verrous à l'époque qui ont été mis au moment où la Chine est entrée. Il y a eu énormément de verrous, mais... il y avait un certain nombre d'illusions quand même qui ont été manifestes. Il y avait une illusion politique, c'est que le doux commerce de Montesquieu allait changer les mœurs, changer la démocratie.
Naïveté.
Une certaine naïveté. Mais l'essentiel, c'est que l'histoire ne s'est pas passée comme prévu parce que la Chine a été beaucoup plus rapide. Dans tous les domaines, elle a été plus rapide. Elle a été plus rapide pour progresser en qualification. Elle s'est industrialisée beaucoup plus vite. Personne ne pouvait imaginer que ça irait aussi vite. Donc, faire rentrer la Chine dans le commerce mondial était une bonne idée de principe, sans aucun doute. D'abord parce qu'elle arrivait... On voit toutes les critiques qui sont faites, et on va en parler longuement, des critiques qui sont faites sur la façon dont ça s'est passé, mais quand même à l'arrivée, la Chine, la richesse chinoise s'est multipliée par 10, le niveau de vie a augmenté considérablement, l'espérance de vie en Chine... elle est aujourd'hui de 77 ans contre 81 en France. C'est un pays qui est sorti globalement de la misère, de la pauvreté. Il y a des poches de pauvreté, etc. Mais bien sûr, si on prend la planète, de ce point de vue, c'est quand même intéressant. Nous sommes des pays riches, nous pouvons encaisser un certain nombre de difficultés. Mais illusion politique et illusion économique, parce qu'il faut dire, et je finis là-dessus, c'est que les entreprises y ont beaucoup gagné, les entreprises internationales, mais il y a eu un certain nombre de dégâts en Europe et aux États-Unis, et ça, on va en reparler.
Thomas Piketty, à l'aune des dégâts, justement, en France, en Europe et aux États-Unis, est-ce qu'il fallait faire cette ouverture?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a être membre de l'OMC, comme on peut être membre de l'ONU, de l'Organisation Internationale, et après, c'est que fait l'OMC? C'est-à-dire, tout le problème, c'est que l'OMC, donc, qui est une organisation internationale récente, vous savez, qui a été créée en 94, en remplacement du GATT. Parce qu'on n'avait pas réussi, d'ailleurs, c'est intéressant, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu des projets de création d'une organisation internationale du commerce, notamment tirée par des pays du Sud, par l'Inde et le Brésil, qui avait une vision, disons, un peu plus sociale, globalement, du commerce, qui en particulier voulait mettre sur la table, dans le contexte de l'époque, les questions de nationalisation, de transfert de propriété, de brevets, d'ailleurs sur lesquels les pays riches encore aujourd'hui rechignent à avoir un traitement à mon sens plus correct des pays du Sud. Enfin bon, tout ça explique qu'on n'avait pas d'organisation internationale du commerce parce que les pays occidentaux en fait avaient peur de se faire mettre en minorité.
On arrive à l'OMC
à la Chine. Donc on fait venir la Chine en 2001, c'est aussi le contexte de l'après-guerre froide. Il faut savoir que la Russie n'est rentrée qu'en 2012. Donc on est dans ce contexte de sortie de la guerre froide où tous les pays rentrent dans les organisations internationales existantes. La question c'est que font ces organisations? Et le problème c'est que l'OMC à ce moment-là est rentrée dans une phase, disons, très, très libérale. Alors, Dominique parlait de la doctrine du doux commerce. Bon, ça n'a jamais été très doux, le commerce. Et à l'époque de Montesquieu, c'était l'esclavage, la colonisation, c'était des relations tout sauf douces entre les pays qui échangeaient économiquement. Aujourd'hui, c'est pas...
Non, mais l'idée, c'est que ça aurait changé la Chine.
Oui, mais sauf que ça ne s'est pas passé non plus dans le passé. Non. C'est-à-dire, vous avez des relations commerciales qui sont des relations de puissance, qui sont des relations qui doivent, à mon avis, le grand changement qui aurait dû être fait et qui doit être fait aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre le commerce au service d'objectifs environnementaux, d'objectifs sociaux, d'objectifs de justice sociale, fiscale, qui soient explicites, qui soient quantifiés, et la poursuite des échanges commerciaux et le fait qu'on ait abaissé les droits de douane autant, parce que c'est ça, concrètement, l'entrée dans l'OMC en 2001, ça a eu pour conséquence, c'est pas juste avoir un siège, un strapontin à l'OMC, c'est que ça a pour conséquence d'abaisser massivement les droits de douane vis-à-vis de la Chine, sans condition, sans contrepartie environnementale, sans contrepartie sociale, sans contrepartie fiscale, c'est un problème d'ailleurs aussi qu'on a à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est pas seulement vis-à-vis de la Chine. Alors, avec la Chine, il y a quand même, moi, je veux quand même dire, il y a un problème particulier supplémentaire, qui est que là, on assiste à la montée en puissance d'une dictature numérique parfaite, qui a étouffé le processus démocratique sous nos yeux à Hong Kong. Et le fait qu'on n'ait pas réagi à ça, et même qu'on ait proposé un traité supplémentaire sur la circulation de l'investissement avec la Chine, au moment même où sous nos yeux on étouffait un processus démocratique. Là, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend de... que la puissance soit chinoise soit plus considérable encore? Donc là, là, il y a un problème spécifique, mais qui est fondamental et à mon avis, qui est pas économique, mais qui est encore plus
Dominique
important.
Ce, on parle beaucoup de désindustrialisation dans la pré-campagne présidentielle. Est-ce que la désindustrialisation en France est la conséquence directe de cette entrée de la Chine dans l'OMC il y a 20 ans?
La réponse est partiellement, mais un mot juste quand même sur l'Union européenne. Vous dites le commerce n'a jamais été doux. Depuis 1945, l'Union européenne, l'idée de l'Union européenne, c'est de dire on commerce et ça construit.
Il y a des instances démocratiques, c'est pas tout à fait l'OMC.
Et ça construit la paix, et c'est ce qui s'est passé. Donc l'Union européenne considère que le commerce, avec succès, est efficace pour assurer le bien-être et la paix. Sur la désindustrialisation, il faut quand même dire les choses. En France, on considère généralement qu'il y a eu 270 000 emplois industriels qui ont disparu depuis le milieu des années 90.
Du fait de la Chine.
Du fait de la Chine, c'est-à-dire 13%.
Il y en a eu plus que ça, oui.
13% des emplois industriels. C'est beaucoup, ça n'est pas non plus absolument considérable. Mais en face, mais le problème évidemment, c'est que ça a été concentré dans certains, les jouets, les textiles, un certain nombre de régions et de métiers. Mais en face, on considère que ça a procuré en pouvoir d'achat 100 euros par mois à chaque Français.
Non, attendez, Dominique, ça c'est pas vrai. Ce chiffre-là, d'abord, c'est pour le commerce avec l'ensemble des pays à bas coût. C'est pas simplement pour la Chine.
Oui, donc, mais l'essentiel est en Chine.
Non, ça vous
l'essentiel
fait
est en Chine, 48%.
Ça fait la moitié. 48%, donc déjà, faut diviser par deux ce chiffre.
Deuxièmement, mais attendez, au total, si je finis juste ma phrase comme ça et vous allez répondre. Okay. Vous avez le commerce à bas coût, les pays à bas coût, les importations 100 euros par mois, ça doit faire 25 000 euros depuis l'année 2000, si on multiplie. Oui. Donc ça n'est pas rien, et c'est sur l'ensemble de la population.
Donc il y a eu des gains aussi, c'est ce que vous nous dites.
Il y a des gains qui sont importants. Voilà. Mais évidemment, on ne peut pas dire que la désindustrialisation française ou européenne, c'est la Chine. C'est-à-dire, personne ne nous a empêché de faire TikTok. Personne ne nous a empêché de faire Alibaba. Personne ne fait... C'est pas à cause de la Chine que, que les fusées réutilisables dans l'espace vont d'abord naître en Chine avant de naître en Europe, après être né aux États-Unis.
Là-dessus, la faute à la Chine, Thomas Piketty.
Alors, moi, là, sur les gains de pouvoir d'achat, je veux quand même remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que, d'abord, la totalité de ce qu'on importe de Chine en Union européenne, c'est de l'ordre de 500 milliards d'euros, mais sur un PIB de 14 500. Donc, en fait, c'est entre 3 et 4% du PIB. Donc, allons pas nous dire que si notre pouvoir d'achat a été multiplié par 10 depuis un siècle, c'est grâce à la Chine. C'est-à-dire, il faut remettre les choses à leur place. Ce gain de pouvoir d'achat, 100 euros. Alors, d'abord, 100 euros, c'est avec tout le monde...
dont la moitié de la Chine.
À bas revenu, dont la moitié de la Chine. Donc en fait, c'est 50 euros. Mais là, vous alliez dire 100 euros. Deuxièmement, même si c'était 100 euros, 100 euros, ça fait 3% du PIB par habitant en France. C'est-à-dire, le PIB par habitant en France, c'est 33 000 euros par habitant. Donc là, vous êtes à 1 000 euros. Vous êtes à 3% de 33 000, c'est à peu près 1 000 euros, 100 euros par mois. Donc, vous êtes 3%. Est-ce que ça vaut 3% de pouvoir d'achat en plus, le fait de détruire 300 000 emplois par ailleurs en France, et le fait de voir monter en puissance cette espèce de dictature numérique parfaite qui étouffe le processus démocratique, est-ce que ça vaut 3%? Vous savez, à un moment, quand on regardera cette période, on ne sait pas ce qui va se passer à Taïwan, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Dans la puissance chinoise, c'est pour moi, c'est quand même un défi considérable, et tout ça pour 3%, ce qui n'est même pas 3%, parce qu'il faudrait diviser par 2, etc., etc., puisque c'est pas le chiffre ne concerne pas que la Chine. Franchement, je pense qu'il faut arrêter qu'on se raconte des histoires sur le fait que notre prospérité dépend de la Chine. Ce n'est pas vrai. De même, d'ailleurs, que la prospérité chinoise, vous savez, vous disiez tout à l'heure, la Chine s'est sortie de la pauvreté. C'est vrai, mais elle aurait parfaitement pu le faire autrement, elle aurait parfaitement pu le faire, en particulier sans accumuler ses excédents commerciaux à l'extérieur, qui, du point de vue de la pauvreté chinoise, ne servent strictement à rien. Donc, vous voyez, il y a une volonté de puissance, mais qu'on retrouve dans le processus de développement depuis la révolution industrielle, où il y a des aspects positifs liés au développement domestique, mais souvent une espèce de volonté de puissance, d'accumulation.
Un autre chemin était possible, c'est ce que vous nous dites,
qui en fait ne servent pas à grand chose.
Est-ce qu'aujourd'hui un rééquilibrage est possible, Dominique Seux?
Il est en train de commencer à se faire. Et la grande question dans les heures qui viennent, ça va être de savoir si la nouvelle coalition allemande, Olaf Scholz, va avoir une attitude un peu différente de celle d'Angela Merkel et de la coalition précédente vis-à-vis de la Chine. Il semble dans le contrat de coalition que ce soit un petit peu plus musclé. On sait que depuis un certain nombre d'années, la majorité des pays européens veulent rééquilibrer les choses, considèrent que la Chine maintenant est un rival systémique, c'est la formule de la Commission européenne, mais ça bloquait sur le fait que Berlin était quand même assez réticent parce que Volkswagen vend plus de voitures en Chine qu'en Europe. Donc c'est quand même considérable. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Est-ce que le vent de l'histoire est en train un peu de tourner ? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais on saura peut-être d'ailleurs dès aujourd'hui, avec rencontre Macron-Scholz, si les choses sont en train de bouger. Non,
Dominique, comment rééquilibrer l'automatisme ?
Je considère que les gains de pouvoir d'achat, ils ont été importants, et les responsables politiques en
1,5%
France, les responsables politiques en France ont considéré que importer des produits à bas coût, c'est-à-dire parce que chaque auditeur sait tous les téléviseurs, les grille-pains, enfin l'ensemble des biens industriels,
ça coûterait ça beaucoup plus cher s'ils étaient fabriqués en Europe.
Oui, et ça a permis aux prélèvements obligatoires d'augmenter pendant toutes ces années pour financer, et on en pense du bien ou moins de bien, pour financer les besoins sociaux.
Vous nous disiez, Dominique, qu'il faut regarder là ce qui va se passer en Allemagne, tout ça. Bon, c'est vrai, mais vous savez, on ne peut pas se lier les mains comme ça. C'est-à-dire, moi, je pense que le problème, c'est la façon dont fonctionne l'Europe sur ces questions, fait qu'on se lie complètement les mains. C'est-à-dire que quand il s'agit d'adopter, par exemple, une taxe carbone aux frontières vis-à-vis de la Chine ou n'importe quelle mesure fiscale commune, c'est l'unanimité. Donc, à chaque fois, on en revient à se dire, ah ben mince, pas de chance, on n'a pas l'unanimité, mais il faut continuer d'essayer, on essaiera la prochaine fois. Et comme en plus on s'est défait de notre droit de mettre des mesures protectrices, en particulier face au dumping environnemental, bah à la fin on ne fait rien du tout.
Donc là, on peut rien faire.
Non, bah je pense qu'il faut sortir de cette équipe. Vous savez, les traités, les équilibres institutionnels, les accords entre pays, ils sont faits pour être révisés en permanence. Ils le sont en permanence. Ils continueront de l'être. Et je pense que concrètement, sur ces questions de taxes carbone aux frontières, moi je pense qu'on ne peut pas attendre l'unanimité. C'est-à-dire, je pense que la France devrait d'emblée prendre les mesures qui s'imposent. Oui, et ensuite l'Europe pourrait venir en complément. Mais vous savez, c'est la même chose. Regardez, c'est la même chose sur la lutte sur le dumping fiscal. C'est-à-dire que ce que nous a dit, par exemple, l'Observatoire européen de la fiscalité il y a quelques mois, c'est que comme le taux de 15% minimal sur les multinationales est insuffisant, il faut que chaque pays unilatéralement dise, bah moi, si vous voulez exporter des biens et des services chez moi et commercer avec moi et que vous ne taxez qu'à 15% les profits, alors que moi je pense que c'est 25%, ou vous ne taxez le carbone qu'à 50€ la tonne et moi je pense que c'est 100€ la tonne, eh bien la différence, oui, je la prélève unilatéralement. Mmh. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on va tirer vers le haut le processus. Parce que si on attend l'unanimité et les prochaines élections allemandes, ce qu'on explique à chaque fois...
Ça sera trop longtemps.
Parce que vous savez, la crise sur les panneaux solaires en 2013, on a vu qu'on n'avait rien pu faire à cause de cette unanimité.
Il vous reste une minute.
Nous sommes engagés dans une sorte de course. C'est celui qui parlera le plus vite en se disant, on va casser. Non, mais je dis ça en riant. Donc en fait, c'est une sorte de galop. Donc je vais essayer encore d'accélérer. Il y a deux hypothèses. Soit vous considérez comme un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle qu'il faut, en gros, jeter l'Europe par-dessus bord parce qu'on n'y arrivera jamais et fonctionner en solo.
C'est pas ce que dit l'Observatoire européen de la fiscalité.
Vous avez un certain nombre de candidats, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, qui pensent ça, ou on peut penser que ça prend du temps, mais que petit à petit, en fait, les esprits sont en train de changer, les yeux sont en train de s'ouvrir, et que, vis-à-vis de la Chine notamment, puisque c'est le sujet, on va arriver à trouver un consensus. Moi, j'ai le sentiment que la nouvelle coalition allemande est plutôt dans un état d'esprit différent. Mais encore une fois, c'est à l'Europe de faire ses innovations. On va pas récupérer les emplois industriels qui ont été détruits.
Ce n'était pas une course, c'était le débat éco. Merci à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seux, le journal de 8h est à suivre.
Merci. France Inter.